BFM Business, c'est votre argent. Marc Fiorentino.
Ah, c'est votre argent, ou bientôt on dira peut-être c'était votre argent, on va peut-être changer d'émission. En tout cas, ça semble un peu, alors c'est pas le chaos, mais il y a une ambiance de parfum de chaos. Mais moi, j'ai trois bonnes nouvelles pour vous. C'est encore votre argent. C'est toujours votre week-end et c'est une émission qui n'est pas exceptionnelle mais qui va être spéciale, spéciale élection. Vous savez, depuis la semaine dernière, on fait que des spéciales élections parce qu'on vit un moment historique, parce que c'est important de prendre un peu de temps pour essayer de comprendre ce qu'on a ou ce qu'on n'a pas. Et il y a beaucoup plus de choses qu'on n'a pas dans les programmes qu'on a et de savoir globalement qu'est-ce qui va se passer. Alors évidemment, c'est pas une émission politique, hein, on va pas faire des scénarios pour savoir qui va faire alliance avec qui, mais on est obligé de se projeter et d'essayer de voir quels sont les scénarios qu'envisagent les marchés, les économistes, les prévisionnistes, et puis se positionner là-dessus pour savoir si vous, par rapport à votre argent, il y a des mesures à prendre concrètes. On est submergé, hein, d'appels d'épargnants inquiets, très inquiets, qui nous posent des questions, qui nous rappellent 2010-2012. Est-ce que je dois fermer mon compte dans ma banque? Est-ce que je dois ouvrir à la banque postale? Est-ce que le fonds en euros est en danger? Est-ce que le contrat d'assurance vie est en danger? Est-ce qu'il faut ouvrir un contrat d'assurance vie au Luxembourg? Enfin, toutes des questions qu'on peut se poser, hein, et auxquelles on va essayer de répondre tout à l'heure. On va donc se projeter, évidemment, dans l'après 7 juillet, étudier les conséquences des différents scénarios sur l'économie, les taux, la bourse, les placements, votre argent, rien que ça. Quel programme? Alors, au sommaire aujourd'hui, en fait, un seul mot, hein, ça sera les élections. La question macro, c'est comment la situation politique va-t-elle affecter l'économie française? Mais j'ai envie de poser une autre question, c'est comment la situation économique, politique a déjà affecté l'économie française? Parce qu'on voit depuis 10 jours des mouvements qui sont des mouvements clairs, en tout cas en matière d'investissement. Est-ce que c'est perceptible déjà sur la consommation? On va en parler. Le chiffre de la semaine, c'est bien sûr le chiffre que tout le monde suit, c'est-à-dire cet écart de taux entre la France et l'Allemagne. En deuxième partie de l'émission, c'est est-ce que la Bourse de Paris, qui a soufflé un peu cette semaine, hein, après une chute très violente la semaine dernière, peut résister à une crise politique? La question d'argent. Ben dans ce contexte, qu'est-ce qu'il faut faire? Où est-ce qu'il faut placer son argent? Est-ce qu'il faut rester en bourse? Est-ce qu'il faut quitter la bourse? Est-ce qu'il faut aller sur d'autres compartiments? Est-ce qu'il faut mettre son argent sous son matelas ou dans l'or? Le top ou le flop de la semaine, le top 3 des gérants, les actions à acheter ou vendre. Mais vous le savez maintenant, pour une émission spéciale, il faut des invités très spéciaux. J'ai donc l'immense plaisir de vous présenter notre Jedi de l'économie et de la finance. Même s'il exerce chez Mirabeau France, il ne prône pas la révolution, mais la gestion, et souvent sur le podium des gérants. Bravo d'ailleurs Frédéric, vous êtes sur le podium des gérants depuis quelques semaines, je ne sais pas si vous y êtes encore, je ne peux pas vous le dire.
Je ne sais pas.
Mais en tout cas, depuis le début de l'année, vous faites des apparitions régulières et plutôt très bien placées, donc très bien. Merci. Bravo. En cette période de délire total, je ne sais pas s'il y a un autre mot, nous avons besoin de sagesse et la sagesse, c'est sa marque de fabrique. C'est Hervé Gouletière, senior advisor d'Accuracy. Il va falloir nous amener un peu de sérénité parce que franchement, il n'y en a pas beaucoup, hein.
C'est compliqué aujourd'hui.
Ah, même vous dites c'est compliqué?
Bon,
allez. Non, mais attendez, si vous aussi vous allez vous mettre dans cette ambiance anxiogène, on va pas y arriver, hein. Je comptais sur vous pour nous rassurer.
Allez, je ne veux pas vous décevoir tout de suite alors, Marc.
Elle est directe et franche comme cette émission. Céline Picmal-Pratt, vous êtes présidente de Picmal Houghton Investment. Merci d'être venue.
Merci Marc.
Période chahutée pour les gérants.
Et donc du coup, un bon moment, je pense, pour parler et échanger sur ces sujets complexes.
C'est notre boussole dans les tempêtes. Et quelle tempête! L'économiste qui murmure à l'oreille des patrons, justement des patrons qui ont vu défiler tous les candidats cette semaine. J'aimerais bien avoir votre feedback, si vous avez eu déjà des feedbacks de gens qui ont participé à ces présentations, et votre feedback sur la présentation des candidats. Denis Ferrand, vous êtes d'abord, merci d'être venu. Vous êtes directeur général de Rexecode.
Oui.
Allez, on passe tout de suite au mot de la semaine. Évidemment, le mot de la semaine, c'est les élections. On commence. Alors, je ne sais pas si je peux dire ça, parce que j'ai envie de dire, on commence à y voir clair sur les scénarios possibles. En tout cas, on y voit un peu clair sur les programmes. Certains étant très clairs, celui du Front de Gauche est très clair. D'autres étant plus flous. Alors, certains critiquent le programme du Rassemblement National parce qu'il est flou. D'autres disent au contraire que finalement, ils ont écouté et qu'ils vont rien faire de ce qu'ils avaient promis. Et puis, on a une hypothèse, évidemment, d'un scénario au centre. Comment vous travaillez, vous, en ce moment, les économistes? Est-ce que vous dites, bon, voilà, il y a 4 scénarios, 6 scénarios, 2 scénarios, et puis en fonction de ça, voilà nos anticipations de différents?
Alors, déjà, la première des choses, on ne cède pas à la mode du chiffrage.
Parce que le chiffrage, c'est effectivement quelque chose que l'on peut faire ex ante. On en voit fleurir de partout des chiffrages, et même certains chiffrages qui donnent lieu
à des chiffrages des programmes.
De chiffrage des programmes.
D'accord.
Parce qu'en fait, les chiffrages, ils sont établis d'une manière comme si l'économie était totalement indifférente à ce qui va lui être administré. Or, l'économie, elle va s'adapter, on lui administre un choc, elle va dévier de sa trajectoire, et donc, on va trouver un nouvel équilibre. Or, quand on fait du chiffrage, en particulier pour ce qui va concerner la partie recettes publiques qui va être mise en place, eh bien, on fait comme si les bases de la fiscalité, après tout, on a des recettes parce qu'il y a une base sur laquelle on applique un taux, comme si la base n'était pas impliquée par le choc qu'on administre. Donc déjà, il faut faire très attention quand on fait un chiffrage, c'est souvent avant même que n'ait réagi l'économie au choc qu'on lui administre.
Alors attendez, vous dites... Il faut remettre en question le chiffrage donné par les partis, parce qu'on entendait par exemple le Front de Gauche dire voilà, nous ça sera 25 milliards de dépenses supplémentaires en 2024, mais d'un autre côté on va gagner 15 milliards en ISF, ouais. Ce qui paraît totalement absurde, on n'a jamais eu 15 milliards en ISF.
Non,
donc vous dites c'est à la fois ça, mais à la fois les chiffrages des économistes.
Oui, en fait c'est une démarche qui est une démarche comptable,
okay.
qui a ses vertus, mais qui n'est pas une démarche d'économiste.
Qui n'est pas
une démarche d'économiste dans le sens où l'économiste, il doit regarder ce qui va se passer. C'est là, justement, qu'on va entrer dans les scénarios. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre comme scénario? Alors, les hypothèques politiques, moi, je ne sais pas faire. Je ne sais pas ce qui se passera.
Mais vous êtes bien obligé. Vous êtes bien obligé de vous dire aujourd'hui, il y a éventuellement majorité absolue RN et Alliés, éventuellement majorité absolue Front de Gauche, éventuellement une coalition au centre-gauche. C'est ça ou pas?
Exactement. Et aussi, l'option qui est la majorité introuvable.
Oui.
Et le fait qu'on n'arrive pas à dégager...
Cette majorité au centre-gauche, c'est une sorte de majorité introuvable.
Tout à fait. Le mot qui vient d'ailleurs assez souvent en ce moment dans les échanges que l'on a avec les entreprises, c'est le mot Belgique. Mmh. Est-ce qu'on peut avoir un scénario belge pendant un an, il n'y a pas de majorité, et donc dans ce cas, eh bien, on expédie les affaires courantes.
An, hein,
ça a duré plus d'un an. Tout à fait. Donc, pas de majorité. Donc, on expédie les affaires courantes, ce qui fait que comment est-ce que l'on fonctionne? Mais on a un gouvernement qui est l'ancien gouvernement, le dernier gouvernement en place. Il y a une exécution d'un budget qui est le dernier budget qui a été mis en place, mais il n'y a pas de nouvelle loi. On fait simplement, on prolonge d'un mois sur l'autre.
On gère les affaires courantes.
Ce qui avait été mis en place, oui.
On gère les affaires courantes.
Et c'est un scénario qui n'est pas impossible, qui n'est pas souvent évoqué, mais qui n'est pas impossible. Après, qu'est-ce qui se passe s'il y a le Rassemblement National? Eh bien, quelle est la possibilité d'exécuter?
Quelle est la possibilité? Mais c'est ma question et je vais la poser aussi à Hervé. Quelle est la marge de manœuvre aujourd'hui réelle? On en parlait la semaine dernière avec vos confrères. Qu'est-ce que l'Europe peut vraiment faire? Parce que quand on voit par exemple cette procédure de déficit excessif, c'est une énorme blague.
Ouais, bien sûr. Non, mais la mesure, si on doit avoir une sanction parce qu'on dérogera durablement parce qu'on ne fait pas les efforts pour réduire notre procédure pour déficit excessif, ça va se monter à 0,05 point de PIB. Bon, ça va pas aller très
loin. Il faut rappeler, je me permets de rappeler sous votre contrôle, qu'on a diminuer les sanctions par rapport au précédent pacte de stabilité et de croissance.
Tout à fait.
C'est 0,05 voire 0,10 alors qu'on était entre 0,20 et 0,50 du PIB. Là,
c'est pas un élément qui...
Et il n'y a jamais eu de sanctions prononcées et la France a été sous procédure de déficit excessif pendant 9 ans de 2009 à 2018, sans aucune sanction.
Oui, tout à fait. Quand vous parliez tout à l'heure là, de marge de manœuvre, il me semble qu'il y a un point qu'il faut se rappeler, c'est qu'avant même qu'il n'y ait ce florilège de promesses, il y avait déjà, on devait faire 10 milliards d'euros de réduction de dépenses.
Voire plus, franchement.
Simplement pour 2024, on devait faire encore 10 milliards pour se mettre sur la trajectoire qui était attendue par Bruxelles, et à nouveau 20 milliards chaque année jusqu'à 2027. Donc le premier 20 milliards devront être votés dans le projet de loi de finances de 2025.
Hervé, je sais que vous n'aimez pas vous projeter dans des scénarios un peu ou essayer de faire des paris sur l'avenir, mais aujourd'hui quand même, on essaye d'y voir clair dans le brouillard. Est-ce qu'on a des garde-fous parce qu'on a des fous?
Alors, on a des garde-fous. Ce qui se passera, la réaction de l'économie, la réaction des marchés de capitaux sera le garde-fou. Ce qui est frappant aujourd'hui, c'est que tout tourne autour de la question du pouvoir d'achat. Les gens veulent plus de pouvoir d'achat. Il y a trois façons de donner du pouvoir d'achat. Et en fait, les partis politiques se focalisent sans doute sur la façon la plus impossible aujourd'hui. On pourrait dire comment créer plus de croissance. On n'en parle pas. on pourrait dire comment avoir une distribution différente de la richesse créée dans les entreprises. On en parle un tout petit peu.
On en parle quand on parle de l'augmentation du SMIC.
Mais
des bas salaires.
On en parle d'une façon qui va vite venir sur un blocage, puisque ceux qui mettent ça sur la table disent en même temps « Ah oui, mais n'ayez pas peur, on va vous aider ». Donc on va vous aider, on en arrive au troisième point, la troisième façon de faire, qui est donc la politique de redistribution. Je vais prélever plus, je vais vous donner plus, ou je vais faire des arbitrages dans les dépenses, je vais ou sinon je vais faire plus de déficit. Et en fait, c'est sans doute là où on a le moins de marge de manœuvre possible, et c'est là où on est face tout de même à une curiosité. Si on essaie de se projeter, en prenant la transition énergétique, en prenant le digital, en prenant la défense, les calculs ont été faits. En gros, c'est 6 points de produit intérieur brut à mettre sur la table. Dans un pays comme le nôtre, le point, disons, pour faire simple, est à 25 milliards. Il y a 300 milliards par an à mettre sur la table. Il faudrait remettre de l'argent dans les comptes publics. En fait, ça, c'est chiffré à peu près. Ça pourrait faire du 2,5 points de PIB d'effort supplémentaire. Donc, en fait, ce qu'on est en train de dire... La BCE a sorti un papier assez intéressant il y a 2 ou 3 jours là-dessus. Elle dit, si on veut réussir les transitions qu'il y a à faire, si on veut remettre au carré les comptes publics, pour un pays comme le nôtre, ça va coûter 5,5 points de produit intérieur brut. Et on a des braves partis politiques qui mettent sur la table qui 2 points de produit intérieur, qui 4 points de produit intérieur. Donc en fait, on a une situation qui est déjà très compliquée. On cherche énormément d'argent et on dit, c'est pas grave, on va en dépenser encore plus. Donc en fait, on est quand même dans quelque chose qui est irréel. Et donc,
mais qui est réel quand même, parce qu'on va y être confronté. La question que je vous pose, et la question que je pose à Denis, c'est de dire, vous comptez beaucoup sur les marchés, on parlera tout à l'heure aux gérants, mais les marchés, là, on a vu l'adjudication des emprunts du Trésor français, elle s'est super bien passée. Le taux absolu, il est en dessous du taux avant les élections, avant l'annonce de la dissolution. Certes, l'écart s'est creusé avec l'Allemagne, mais notre taux absolu. Donc, quelle est la sanction des marchés ?
Alors, pour le moment, il n'y a pas de sanction des marchés, parce que on n'est pas justement à établir des scénarios. On n'est pas à se dire, tiens, quelle probabilité je donne à ceci ou à cela. Pour le moment, on est face à une incertitude, et la réaction des marchés face à cette incertitude, l'écart de taux France-Allemagne, même le comportement des marchés actions, pour le moment, il y a plutôt, non pas de la sérénité, parce qu'il y a
de la nervosité.
Il y a un certain sang-froid en se disant que tout ça est assez irréel et que ça ne se passera pas comme ça. Vrai ou faux ?
On passe tout de suite à la question macro qui est liée à la première, c'est comment la situation économique affecte et va affecter notre économie. Denis, déjà aujourd'hui, parce que en fait ce qui me frappe, c'est quand je vois tous les débats, on se projette, les mesures, quel impact sur l'économie, mais moi je vois l'impact, cette semaine j'ai vu l'impact sur l'économie, c'est-à-dire que je pense que quoi qu'il se passe, on parle même pas des programmes, on est déjà en train d'avoir un coup de frein qui est dingue.
Ouais.
Ou pas ? Je me trompe ou pas ? Ou c'est juste une impression
Pense que pour l'instant, on a un coup de frein dans les projections.
Dans l'investissement ?
Oui, dans l'investissement, oui. J'allais y venir, oui. Oui, tout à fait. On avait déjà, avant même qu'il y ait tout ce maelstrom que l'on connaît, il y avait déjà un poste qui avait fortement ralenti, et même qui connaît une décroissance, c'est l'investissement des entreprises.
C'est ça.
Quand on discute avec les entreprises en ce moment, rappelons-nous, il y a encore un mois, c'était Choose France, le gros thème. Ça y est, on fait venir tout le monde. Choose France, je ne sais pas comment se projettent aujourd'hui les gens qui ont signé, qui étaient présents à Versailles. Est-ce que vraiment je viens dans ce paysage ? Quand je discute avec des chefs d'entreprise actuellement, ce qu'ils me disent, c'est bon, il est quand même pas, on va quand même pas se précipiter. Là, les projets d'investissement, pour l'instant, j'attends. Hein, je vois donc, oui, petit à petit, c'est comme une sténose qui s'installe. On va s'arrêter progressivement. On va pas s'engager parce que de toute façon, j'ai des coûts devant moi qui vont progresser de manière.
Donc l'investissement, on peut dire qu'il est à l'arrêt ou pas ?
L'investissement, oui. Là, il s'arrête.
La consommation, est-ce qu'elle va souffrir tout de suite par l'incertitude ? Parce que nous, on voit, par exemple, enfin, les gérants en parleront, mais on voit l'épargne qui continue à monter parce que les gens font de l'épargne de précaution.
Oui, ça, de toute façon, dans cette période, on ne peut pas avoir, dans une période qui est aussi incertaine, aussi invisible, enfin, aussi illisible, pardon, on ne peut pas avoir un déblocage des projets. Si vous avez vraiment une majorité qui est claire et que le projet est acheté, à ce moment-là, vous aurez un dégrippage qui se fera, et ce qui ne se fait pas actuellement.
Sauf si la majorité passe pas celle qui...
Mais sauf
qui
si est... la majorité est introuvable. Et effectivement, on a...
Sauf si c'est une majorité qui a un programme qui est destructeur pour la croissance.
Exactement. Et puis là, de toute façon, viendront se mettre en place tous les mécanismes qui... on se trouvera dans une impossibilité de faire face à nos échéances... Enfin, à assurer une croissance qui est suffisante. On va peut-être avoir un petit boost de croissance très immédiat. Mettons que le programme du Front Populaire passe, on aura un petit boost de croissance, mais totalement factice, parce qu'il y aura la consommation qui aura accéléré, mais très rapidement, on sera rattrapé par le fait que des entreprises ne pourront pas faire face à l'augmentation du SMIC qu'elles ont connu sans augmenter les prix. Et donc, ce que l'on aura gagné en pouvoir d'achat aura été très rapidement perdu. Ce qu'on, par rapport à ce que disait Hervé, par rapport à ce que disait Hervé, en fait, on inverse totalement le sens des causalités. On fait du pouvoir d'achat, a priori, là où le pouvoir d'achat est toujours quelque chose qui se construit par le fonctionnement de l'économie.
Hervé, les investisseurs, ce qu'ils aiment, c'est une certaine sérénité, une stabilité. On parle des investissements étrangers, je ne parle pas des investisseurs de marché. Les investisseurs, et ils veulent une visibilité, notamment sur la fiscalité. Trois éléments qui viennent de sauter. Est-ce qu'on s'est pris 5 ans dans la figure, là ?
Alors, 5 ans dans la figure, non. Moi, ce qui me frappe, c'est qu'il y a quand même une réaction immédiate. On a eu ce matin les indices des directeurs d'achat, oui, les fameux PMI pour le mois de juin. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que pour le secteur manufacturier, il y a les relations avec la Chine, parce qu'on a vu le PMI manufacturier baisser en Allemagne, et à peu près autant qu'en France. Ça, c'est pas notre histoire
c'est
à
européen.
Nous, c'est l'histoire européenne. Par contre, le PMI service a baissé, je crois, de 2 points en France. Et donc, alors, dans quelle mesure les législatives sont prises en compte? Mais il y a les européennes au moins, et partiellement les législatives. Donc, déjà, les entreprises... Or, le secteur manufacturier nous envoie déjà message. Il faut se mettre à la cape. On ne sait pas où on va. En fait, la question...
Donc, est-ce qu'on peut dire qu'on a déjà ralenti?
Oui, moi je pense qu'on a déjà les premiers signaux, parce que là, il y a un décalage France-Allemagne sur les services qui, à mon avis, s'explique de cette façon-là. Et la vraie question qu'il faut se poser, c'est que face à un programme de rupture économique, et c'est bien ce que l'on voit avec différents partis, combien de temps ça va prendre pour qu'on soit sanctionné par une dégradation économique et par les marchés de capitaux? Il faut se souvenir qu'il y a 40 ans, 42 ans, 43, en fait, ça avait pris 2 ans. Mmh. Il avait fallu 2 ans pour s'en rendre compte. Dans un monde plus ouvert comme aujourd'hui, avec moins de capacité de contrôler les flux de marchandises, les flux de services, les flux de personnes.
On l'a
et
vu
les
en Grande-Bretagne. En Grande-Bretagne, exactement. La sanction, elle a été immédiate. Alors, c'est-à-dire, c'est même pas ça a été une journée.
Alors,
c'est pas la zone euro, je suis d'accord. Mais ça a été une sanction massive quand même.
Nous, ça prendra sans doute plus de temps, mais je pense que ça sera relativement court, en n'oubliant pas tout de même que sur les titres d'État, 50% des titres d'État sont détenus par des mains non européennes.
Bien sûr.
Et donc, ça peut aller vite.
Frédéric, qu'est-ce que vous avez comme remontée des entreprises ?
Pas super. Honnêtement, c'est la première fois, on relative tout le temps les élections, mais c'est la première fois, en tout cas pour les entreprises de taille moyenne, le manque de visibilité, instabilité fiscale. Il y avait aussi des projets de cession d'entreprise.
Bien sûr.
C'est le monde du
tout s'est arrêté. Hein.
Le monde du private equity, c'est...
Fusion, acquisition, arrêté.
C'est mort parce que...
Levée de dette, arrêté. Levée de capitaux, arrêté. Pardon.
Vous avez votre entreprise, vous aviez un projet de cession avec une fiscalité plutôt accommodante. Quid de cette fiscalité aujourd'hui dans la donation, dans la transmission? C'est un monde à l'arrêt. Et dans l'investissement, c'est la même chose. On ne sait pas. On a des hausses de salaire annoncées de 10%. Tout un projet, toute une rentabilité qui est remis en cause. Et donc là, on voit des arrêts massifs, au-delà de ce qu'on imaginait. Avec des questions qui nous paraissent des fois... ça sort de l'entendement, mais des vraies questions existentielles quasiment, avec même des questions de vouloir sortir même de la France, même avec des entreprises. Donc c'est des choses.
Vous dites existentielles, parce qu'on est dans une crise existentielle.
Alors c'est dur de rassurer, parce que bien sûr on exacerbe un peu les craintes dans ces mouvements-là, mais il y a aujourd'hui une peur qui s'est installée, et notamment au sein des chefs d'entreprise et bien sûr des particuliers.
Vous ressentez la même chose? Vous êtes très diversifié. Dans votre Céline, dans votre gestion, et vous êtes très on l'a vu dans votre portefeuille, vous avez de la Chine, vous avez des pays émergents, vous avez de l'or. Vous regardez ça comment?
Comme vous, c'est-à-dire que je pense que on en parlait tout à l'heure avec Hervé. Je relisais récemment Le Monde d'hier de Zweig, Et le sentiment que
vous
j'ai aujourd'hui.
Vous avez décidé vraiment de nous plomber là.
Mais non, mais.
Waouh faut...
Non, parce que justement.
On sait comment
Marc,
il a terminé. Hein.
Mon propos,
on, l'a,
c'est que...
on l'a retrouvé avec sa.
C'est
qu'il
faut.
42...
C'est qu'il faut plutôt regarder la réalité en face. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui confronté à un environnement politique qui prend le dessus sur l'économique. Et il ne faut pas le mettre sous le tapis en pensant que ça va disparaître le 7 juillet. Donc ça ne disparaîtra pas et c'est un phénomène mondial. Mmh. Ce n'est pas un phénomène français. On parlait du Brexit tout à l'heure. Ils voulaient « take back control ». On a eu l'élection de Trump, quand même, qui avait eu lieu et qui nous avait tous surpris et qui peut nous surprendre à nouveau le 4 novembre parce qu'on est toujours surpris. Mais le signal qui nous est envoyé aujourd'hui dans les démocraties, c'est tout simplement que vous avez des personnes qui, aujourd'hui, se sentent en dehors du cercle de ceux qui profitent. Et donc, il faut savoir que notre économie ne sera pas demain la même que celle qu'elle était hier, que les rentabilités des entreprises seront peut-être différentes, que ça ne sera pas forcément les mêmes entreprises qui vont en profiter que celles qui ont profité hier. Donc il faut réfléchir dans un monde où on a eu un traumatisme géopolitique parce qu'on a eu le retour de la
Bien
guerre
sûr.
En Europe en 2022.
Évidemment.
Et aujourd'hui, en 2024, on a un traumatisme politique parce
et,
que
et on a eu
les citoyens,
un
les travailleurs,
sanitaire.
Les travailleurs, les personnes qui travaillent tous les jours nous disent on en a marre parce qu'on n'a pas assez d'argent et on veut take back control. Donc il faut l'écouter. Et il faut se demander, nous en tant qu'investisseurs, qu'est-ce que ça veut dire pour nos investissements, qu'est-ce que ça veut dire pour notre économie, quelles sont les conséquences de ce nouveau monde qui se dessine, qui ne sera pas le même que celui d'hier auquel on est habitué depuis 40 ans. Voilà.
Denis, justement, c'est intéressant ce que dit Céline. Il y a beaucoup de sujets sur ces inégalités. Hein. Il y a beaucoup de sujets sur des vraies détresses hein, qu'on voit. On entend la consommation de produits de première nécessité qui baisse, la ruée vers les magasins low cost. La réalité des chiffres. Parce que d'un autre côté, on a eu des chiffres qui nous disaient que le pouvoir d'achat avait progressé depuis le Covid.
Oui.
Donc, c'est quoi la vérité, elle est où ?
Alors, il y a la vérité des chiffres et il y a la vérité du ressenti.
C'est ça.
C'est vraiment, ce sont ces deux aspects qu'il faut regarder. Parce que la vérité du chiffre, le chiffre donné basiquement par l'INSEE, le pouvoir d'achat du revenu de l'ensemble des ménages, ou même l'évolution du pouvoir d'achat par ménage, donc pour prendre en compte l'évolution de la démographie, cette progression, enfin, il y a une progression. Le pouvoir d'achat par ménage, il a gagné 0,5 points depuis 2019. C'est pas énorme, mais il y a une petite progression. Or, il y a une sensation, il y a un ressenti de déclassement de pouvoir d'achat. Ça renvoie déjà au fait que, oui, il y a un déclassement relatif de l'Europe et de la France en particulier par rapport au reste du monde qui avance très vite. Et puis aussi, il y a eu une évolution du pouvoir d'achat qui a été très conditionnée par ce qui se passe sur le prix de l'énergie, sur le prix de l'alimentaire. Et donc, un ressenti qui est beaucoup plus important quand l'inflation se focalise sur ces produits que quand il va comporter...
C'est ressenti qui ne correspond pas à la réalité, ou est-ce que la réalité qu'on nous donne par les chiffres, c'est une moyenne qui finalement ne reflète pas la situation des 20% de la population qui est la plus défavorisée?
Bien entendu, c'est une moyenne, et avec, en plus, ce qui se passe, c'est que vous avez, regardez la carte électorale, elle est quand même assez saisissante. En gros, vous avez Paris et la province, je le schématise, Paris et les métropoles et le reste, on va dire. Pourquoi ? Parce que quand vous avez une augmentation qui se fait sur le prix de l'énergie, ce sont tous les déplacements des personnes qui doivent aller travailler qui se trouvent soudainement qui décollent complètement. Et quand vous classez, quand vous regardez l'évolution des prix, non pas pour l'ensemble de la population, mais selon que vous êtes un ménage rural ou un ménage urbain, vous n'avez pas la même augmentation des prix. Et donc l'observation moyenne du pouvoir d'achat tel que donné par l'INSEE est vraie, mais c'est une moyenne qui masque des divergences très importantes selon votre situation en termes d'occupation du territoire.
Très rapidement, Hervé, est-ce que les 20% de la population française sont aujourd'hui dans une situation plus mauvaise qu'il y a 5 ans, 7 ans ou 10 ans?
Alors, on doit pouvoir dire qu'elle est dans une situation ressentie comme étant plus difficile parce qu'il y a eu une augmentation de ce qu'on appelle les dépenses contraintes. C'est-à-dire que vous êtes obligé de vous loger, vous êtes obligé de vous chauffer, de manger, de prendre votre voiture. Et ça, dans votre budget, cela a augmenté. Il y a l'inflation.
Leur pouvoir d'achat a-t-il augmenté ou diminué?
Alors, mais le pouvoir d'achat a monté, mais ce pouvoir d'achat a été mangé par les dépenses contraintes. Ce qui fait que le pouvoir d'achat libre, qui permet d'avoir l'impression de vivre, ce pouvoir d'achat, lui, il a baissé. Et donc, dans le mécontentement que l'on a, ce que l'on entend, c'est cela. Je ne peux pas partir en vacances, aller au restaurant, c'est trop cher. Et là, il y a une frustration qui se retrouve dans les urnes.
Très intéressant. On se retrouve en deuxième partie de l'émission pour se poser la question, évidemment, de l'évolution de la bourse, de l'évolution des places et de l'évolution de votre argent. BFM Business, c'est votre argent. Marc Fiorentino. Et on se retrouve pour une deuxième partie d'émission passionnante sur évidemment les élections. On essaye de se projeter sur l'économie. En fait, on se projette pas tellement parce qu'on vient de dire déjà l'économie, c'est pas de la projection, on y est. Hein. Le ralentissement, il est là. L'arrêt des investissements, l'arrêt des opérations de fusion, d'acquisition, la crainte sur la consommation. Donc, quand on se projette sur les programmes, maintenant, il faudrait regarder déjà ce qui est en train de se passer. L'économie elle-même est déjà en train de ralentir. Quel impact sur la bourse, quel impact sur nos placements, quel impact sur votre argent, toutes les questions que vous vous posez, vous en posez beaucoup. On répond avec Denis Ferrand, avec Céline Pic-Malprade, avec Hervé Gouletker et avec Frédéric Rosier. On va parler des marchés, évidemment, puisque tout le monde parle de la sanction des marchés. Ça serait ce juge suprême qui dirait au Front de Gauche, qui dirait au Rassemblement National, qui dirait à une coalition quelconque. Ben non, vous faites pas le job, donc on peut pas faire n'importe quoi. Et donc, vous allez revenir dans les clous. Sauf que, Frédéric, quand on regarde les chiffres, OK, le spread entre la France et l'Allemagne s'est écarté. D'accord, on est passé de 40-50 points, c'est-à-dire 0,40-0,50% à 0,75%. OK, mais c'est pas le délire. On emprunte toujours à 3,10%.
Je parle même pas en taux réel.
C'est ça.
Donc alors c'est vrai qu'on s'éloigne du Rhin pour franchir les Alpes, c'est-à-dire qu'on se rapproche plus de l'Italie que.
Mais avec un taux absolu
faible. Et honnêtement, c'est pas la panique. On a effectivement l'adjudication, c'est plus de deux fois, donc ça s'est super bien passé. On voit pas de mouvement de panique.
Pourquoi alors
C'est presque. On en avait. Hein, c'est presque nous en tant que professionnels, on dit oh. On calme le jeu, il y a le Bund et tout ça. On a tendance à être un peu plus.
Les obligations allemandes.
Les obligations allemandes ou néerlandaises, voilà, on a tendance à se loger là. Mais pour l'instant, c'est vrai qu'il y a toujours cette idée d'ancrage quand même avec le taux sans risque, le taux allemand, en se disant pour l'instant, bah, finalement, c'est ça notre vrai taux de référence, c'est finalement de nos prêteurs de dernier ressort, il y a toujours la garantie de l'Allemagne. Et donc, il n'y a pas de mouvement de panique sur les taux. Et je pense, là, je vais être un petit peu à l'envers peut-être du consensus, mais je ne pense pas, même à l'issue des élections, qu'il y aura un vrai mouvement de panique.
C'est un vrai sujet. Est-ce qu'on est protégé, Hervé Gouletker, par la zone euro et du coup, il ne se passera rien sur les taux français?
Alors, on est protégé par la zone euro à un titre, c'est qu'on a une monnaie commune. Mm-hmm. Et ça, c'est quand même assez protecteur. Alors, est-ce qu'on sera protégé par la BCE? Imaginons que Frédéric se trompe et qu'on ait des pressions haussières plus importantes sur l'écart de taux. Donc, en fait, que les taux français monte. Est-ce que la Banque Centrale Européenne interviendrait? Si on doit suivre les programmes économiques des partis qui donnent de la voix aujourd'hui, non, parce que ça serait des programmes orthogonaux par rapport à ce que demande Bruxelles.
Donc, rappelons quand même qu'elle a un fonds d'intervention qui s'appelle le fonds anti-fragmentation qui permet d'intervenir dès qu'un pays dérape.
Oui, mais...
Allez-y.
Non, mais
je rappelle ça, c'est important.
Il y a intervention si le pays est en règle par rapport aux demandes de Bruxelles. Or, manifestement, si on écoute le Front National, si on écoute la gauche unie, on ne serait pas en règle avec
Bruxelles. Attendez, Hervé, est-ce que vous nous dites que si demain, j'ai n'importe quoi, des partis avec les programmes, vient au pouvoir, que les taux explosent, la Banque Centrale Européenne n'interviendra pas?
Elle interviendra sur les taux italien, s'il y a contamination, si l'Italie se comporte bien, sur les taux espagnols, grecs, portugais,
mais pas
voire d'autres pays, normalement, si on lit ce que la BCE a dit, elle n'interviendrait pas.
Denis, vous dites ça, parce que ça pour moi, c'est très nouveau. Hein.
Ah, c'est tout à fait conditionnel, l'intervention de l'outil anti-fragmentation. Ça dépend tout à fait du fait que vous respectez ou pas les contraintes. Donc, on n'est quand même pas tout à fait dans ces clous-là. Alors, l'Italie est avec nous dans la procédure pour déficit excessif qui a été prononcée au cours de la semaine.
On est 7, hein. On est 7.
On est 7, oui, ouais, tout à fait. Mais pas que des pays de la zone euro.
Non, d'ailleurs. Non, non.
Il y a aussi des pays qui sont dans l'Union européenne, mais hors zone euro. Mais oui, c'est tout à fait conditionné. Donc, on ne peut pas faire
n'importe quoi. Donc, est-ce qu'il y a un scénario possible? Il ne s'agit pas de faire peur, il s'agit de savoir si c'est réaliste ou pas. Aujourd'hui, ce qu'on entend, c'est un peu ce que dit Frédéric, c'est-à-dire, bon, globalement, on est sous cette protection européenne, il ne va rien nous arriver.
Déjà, il y a un élément qui est très important sur la zone euro et qui nous différencie du Royaume-Uni au moment de l'affaire de Liz Truss, c'est qu'on a une zone euro qui est excédentaire dans sa capacité, elle a plus de capacité d'épargne qu'elle n'investit. Donc, ce qui est tout à fait différent de ce que l'on voyait au Royaume-Uni. Donc, il y a, pour l'ensemble de la zone euro, une capacité à venir se soutenir mutuellement.
Mais Hervé dit, on ne soutiendra pas à n'importe quelle condition.
Mais pas à n'importe quel prix, pas à n'importe quelle condition.
Et puis, Marc, n'oublions pas non plus que ce qu'on avait fait en France il y a 40 ans, c'est-à-dire le contrôle d'échange, empêcher les capitaux de s'en aller, aujourd'hui, avec la liberté de mouvement de capitaux dans l'Union, si les gens veulent se dire, mes capitaux, je ne les mets pas en France, je les mets en Allemagne, je les mets en Italie, on peut. Et donc,
alors,
là, il y a une flexibilité.
Est-ce que justement, il y a eu ce fantasme-là sur notamment le front de gauche, est-ce qu'on pourrait nous bloquer dans le cadre de l'Europe, alors qu'on est dans la zone euro, alors qu'on est dans l'Union européenne, est-ce qu'un parti pourrait dire, attendez, compte tenu de ce qui se passe sur les transferts vers la Suisse, même des comptes, évidemment des comptes officiels, ou vers le Luxembourg, c'est pas possible?
Si on respecte les règles européennes, ce n'est pas possible. En fait, ce qu'il faudrait plaider auprès de Bruxelles, c'est que la situation ne devient plus gérable en Europe et qu'on demande une exception pendant un certain temps. C'est la seule chose que l'on pourrait faire. Est-ce que Bruxelles dirait oui ou pas? C'est toute la question.
Est-ce que vous avez été étonné, Céline, par le manque de réaction pour l'instant du marché des taux? Ou les relations, la réaction relativement modérée, on va dire?
En effet, oui, on a pu trouver que c'était un tout petit peu étonnant. Mais c'est vrai qu'après, il faut se mettre aussi du côté des investisseurs qui considèrent que finalement l'obligataire fait figure de refuge dans un océan de complexité. Il y a eu des flux qui sont sortis des actions pour aller se reporter sur l'obligataire. Et c'est cela dont a profité le marché au cours des dernières semaines. Donc la question qui va se poser maintenant, c'est quid de la suite, sachant qu'effectivement, les déficits sont toujours présents, la dette est toujours là. Donc comment est-ce que maintenant on va réussir à gérer tout ça? Frédéric parlait tout à l'heure des taux réels. Il va falloir faire attention
que les taux
entre
réels,
le nominal et le réel.
Moins l'inflation.
Est-ce que, je sais que Marc n'est pas d'accord avec moi, mais est-ce que la solution pour les États dans la situation de la France à terme n'est pas tout simplement quand même de laisser un peu filer l'inflation?
Parce que si vous laissez filer un peu l'inflation, ça veut dire vous laissez filer les taux d'intérêt.
Si vous laissez filer
les taux d'intérêt, vous laissez filer le service de la dette et ça devient encore...
Non, c'est parce que ça vous permet, parce qu'on en parlait tout à l'heure avec Hervé, la grande question qui va se poser, c'est la question de la croissance. Comment est-ce que vous pouvez gérer un pays demain en tuant la croissance? Si vous tuez la croissance, vous ne pouvez pas financer votre défense, vous ne pouvez pas financer votre hôpital, vous n'aurez pas de recettes fiscales. Donc vous allez empirer votre problème. Donc c'est forcément un souci qui va se poser. Et pour créer de la croissance, mettre un tout petit peu plus de monnaie dans la machine peut vous permettre. Et donc,
on a essayé,
la question que je me pose, c'est que est-ce que c'est toujours très intelligent? Je parlais de la bascule entre le monde d'hier et le monde de demain. Dans le monde d'hier, vous aviez un investissement 40-60 qui était assez classique pour vous protéger. Entre les actions et les obligations, demain, peut-être que les obligations ne feront plus figure de valeur refuge. C'est la question qu'il va falloir se poser pour les personnes qui nous écoutent. Voilà.
Non, je pense que là, c'est un vrai point. L'idée de safe haven, donc de refuge des obligations, quand on voit le profil de la gestion des comptes publics par les Américains, le T-Bond américain étant considéré comme le refuge absolu sur Terre, ben, en fait, c'est compliqué. Quand on projette la dette américaine, on a juste un peu peur. Quant à nos amis allemands qui n'ont pas de croissance, qui ont à repenser leur modèle économique, est-ce que la politique budgétaire va rester aussi orthodoxe qu'elle ne l'a été jusqu'à maintenant ?
La non, question vous dites la même chose,
ouverte. Oui, oui non, donc en fait...
Alors, vous dites le contraire de ce que je dis, en fait. En fait vous pensez aussi qu'il peut y avoir... que ce n'est pas un vrai refuge.
Ah, moi, je pense que le statut des titres d'État est un statut qu'il faut réinterroger.
Voilà.
Ah ouais.
Ah ouais, non, c'est...
Vous y allez fort là, parce que derrière les taux, derrière les emprunts d'État, il y a les fonds en euros, il y a l'assurance vie, il y a tout ça.
Mais
quand même.
Marc, le monde est en train de changer et il faut interroger beaucoup des croyances que l'on a accumulées autour des 40 ans si depuis que vous et moi nous avons commencé à travailler.
Voilà. Allez, on juste un petit mot sur les marchés. Bon, le CAC 40 a quasiment effacé toute sa performance. On est à 1,7%, le S&P 14%, le Nasdaq 18%. Le fossé est totalement dingue, évidemment, quoi. L'Eurostoxx, 10% quand même. Le Nikkei, 15% de hausse. Shanghai, 1%. Où est-ce qu'on va sur la bourse, Céline ?
Et sur la bourse. Alors, déjà, dans ce nouveau monde, je pense que contrairement au ressenti ou à la peur qui peut tenailler les investisseurs, les actions devraient avoir toute leur place. Les actions sont considérées comme étant extrêmement volatiles, mais elles ont l'avantage d'offrir de la liquidité, de vous permettre de détenir une exposition à la progression potentielle des bénéfices de ces entreprises-là. Cette progression va aller de concert avec l'inflation potentielle qu'on aura
autour de nous
et avec la croissance. Donc il faut plutôt favoriser les actions, à mon sens.
Alors, là,
et dans
là,
les actions, pas... voilà. Ouais. Mais dans les actions, la bourse, moi je dirais qu'il faut favoriser les entreprises qui vont bien faire dans ce nouveau monde. Un nouveau monde dans lequel il faut produire et non pas consommer, un nouveau monde dans lequel il faut avoir des actifs réels, un nouveau monde dans lequel il faut être le plus proche possible d'un avantage compétitif très solide. Voilà.
Quand vous écoutez Céline, vous vous dites qu'elle a fumé, Denis ou...
Non, je pense que j'aurais ajouté peut-être une distinction aussi géographique. Ce qui est quand même assez frappant, me semble-t-il, sur les marchés boursiers, c'est que les entreprises qui ont le plus souffert sont les entreprises qui ont une empreinte France plus importante c'est que ça. La moyenne. Donc, il va falloir aussi discriminer les banques également, mais parce que là, on retrouve le lien avec l'État.
Évidemment.
On retrouve, et c'est vrai que les banques françaises, relativement aux banques européennes, ont quand même largement sous-performé. Donc, il y a aussi le critère du caractère plus ou moins exacerbé des chocs qui vont concerner les différentes zones qui entrent en ligne de compte.
Frédéric, la bourse.
Bah, quand on voit les graphiques, quand on est à l'international, honnêtement, c'est une semaine... En plus, avec l'effet dollar, qui n'est pas désagréable. Honnêtement, ce n'est pas la pire semaine.
Ah bah ouais, c'est dingue.
À l'inverse même. Donc, c'était plutôt une 10 jours extrêmement profitables pour nous, acteurs internationaux. Sur le côté franco-français de la bourse parisienne, ce qui est très intéressant, c'est que le marché a pris finalement le pire de chaque programme et l'a appliqué valeur par valeur. Donc on a vu par exemple sur les banques, un peu à l'image de ce qui s'est passé en Italie sur l'attaque des super profits, bah on va prendre ça. Sur la nationalisation des autoroutes Vinci, on va prendre ça. Donc on pioche à droite et à gauche le pire de pire. Et donc ça nous a fait décrocher de manière assez forte sur effectivement
l'ancien... 6% c'est par rapport à la situation.
Non mais c'est pas 6%, okay. c'est 15% pour les valeurs qui D'accord. sont ciblées par les programmes de certains
parties. Vous dites parties. Qu'il y a l'écran oui. des indices et que derrière l'écran
oui,
des indices...
Oui, vous avez vu ce chiffre de EY cette semaine sur la part du chiffre d'affaires des entreprises du CAC 40 en France, c'est les trois quarts sont à l'extérieur finalement. Et donc, on a regardé, c'est toutes les entreprises dont le chiffre d'affaires est quasiment intransférable, inexportable. Donc les banques, les utilities, les concessions, les médias aussi, puisqu'il y a une discussion sur la privatisation de l'audiovisuel et certains acteurs aussi qui sont ciblés. Donc c'est assez contenu finalement. Et là, dans la réflexion sur les marchés, je vais être un peu rassurant. Voilà, je vais rassurer parce que c'est vrai que c'est assez anxiogène. Je pense que le marché a sanctionné de manière assez forte. Je ne suis pas sûr que la sanction, même post-élection, soit de même ampleur. Donc, en gros, ça nous ferait un CAC à 7003, 7002. Donc, je pense qu'on a vu une bonne partie de la baisse, même dans le scénario qui serait extrêmement négatif.
Bon, ça fait du bien d'entendre ça. Je ne sais pas si vous aurez raison, mais en tout cas, vous nous ferez passer un meilleur week-end. Très rapidement, on va passer au placement de la semaine. Dans ce contexte, on vous a entendu, hein, Céline, vous vous dites action, action, action. Toujours et encore.
Je dis action, action, action. Et dans les actions, privilégier trois actifs.
Allez-y.
Les minières.
Okay.
Donc, vraiment, vous avez quand même le côté, je sais que les obligations ont fait valeur refuge, mais l'or est une valeur refuge dans un océan d'incertitudes. Les minières, qui avaient déjà beaucoup progressé avant avec les achats des banques centrales internationales, mais les minières, par contre, n'ont pas progressé cette année, et c'est encore quelque chose qui peut beaucoup, enfin très bien faire sur le deuxième semestre. L'autre partie qui me semble intéressante, donc comme je le disais tout à l'heure, c'est avoir des entreprises industrielles, productrices, qui vous permettent d'être dans un monde où la souveraineté énergétique, l'indépendance devient clé. Donc si vous avez une différenciation, ça vous permet de vous en sortir. Ben, on a par exemple des entreprises comme Schneider en France, Total en France, qui sont sur le CAC 40 et qui sont très bien positionnées dans un monde où la souveraineté énergétique est clé. Okay. Donc il y a vraiment des choses à faire. Et puis après, le troisième axe, c'est d'aller chercher des entreprises qui sont délaissées, qui vous donnent un dividende dans des devises qui sont très peu détenues et qui peuvent avoir un potentiel de rebond. Et je pense là-dessus, par exemple, à des sociétés comme Sugi qui sont au Japon. Le yen est aujourd'hui la devise la plus survendue au monde. Et il faut voir que quand même, avec un rendement maintenant qui est supérieur à 1% pour les obligations japonaises, on pourrait assister à un retour des investisseurs japonais sur le Japon, alors que tout le monde a emprunté en yen parce que c'était le trade le plus facile à faire. Et on peut avoir des gens qui se font pincer très fort. Et on a bien vu cette année que les surprises, elles arrivent d'un coup. Donc ça peut être vraiment quelque chose qui peut être intéressant à faire.
Frédéric, le placement que vous recommandez chez vous?
Alors, il y a longtemps, j'avais présenté une valeur avec une connotation Chine, et je lui ai dit oui, c'est très décoté. Vous aviez répondu oui, bon, la prime de risque, l'environnement économique, politique, fiscal est très incertain. Donc je me mets à la place d'un investisseur américain aujourd'hui. Qu'est-ce qui est incertain aujourd'hui? Est-ce que l'Europe, honnêtement, ou la France en particulier, est plus incertain que l'environnement chinois? Donc au regard des valorisations, je parle d'un Américain qui n'a pas une vue assez superficielle finalement de la réalité politique. Donc quand je regarde les marchés chinois, on a vu Shanghai il y a quelques temps, il y a 3 mois, on était à moins quelque chose, moins 10, moins 15. Donc il y a une réalité, c'est qu'effectivement il y a des entreprises extrêmement performantes aujourd'hui, il y a des leaders même mondiaux qui sont en train d'émerger en Chine. Donc il faut quand même regarder ce pays-là, il faut pas.
Donc vous aussi vous dites pays émergent.
Et bien sûr les États-Unis.
Encore.
Je suis désolé, mais la réalité, elle est ce qu'elle est. Les flux sont ce qu'ils sont. Donc l'intelligence artificielle, maintenant, la question, c'est un peu le côté irradiation de l'intelligence artificielle. C'est qu'on a acheté les vendeurs de pelles, les fabricants de pelles. On commence à regarder un petit peu les vendeurs de lupiote. Donc maintenant, voilà, ça commence à s'élargir. Et c'est d'aller chercher un peu dans cet environnement. Tous ceux, on a vu des rebonds très impressionnants, d'ailleurs, de sociétés qui sont assez liées à cette intelligence artificielle, des Broadcom récemment, par exemple. Donc il faut peut-être élargir ce spectre.
Denis, le top ou le flop pour vous de la semaine?
Le top, en fait, ce sera évidemment un flop général. C'est l'atmosphère. C'est vraiment l'atmosphère qu'il y a qui est délétère. Enfin, c'est le point que l'on a évoqué sur l'investissement. En réalité, je vois pas d'autres points plus marquants que ce qui est en train de se faire.
C'est très important.
Le changement de perspective que l'on a sur l'investissement, c'est ça qui est vraiment le flop, me semble-t-il.
Top ou flop pour vous, Céline?
Le top, ça a été Nvidia, 3,2 trillions de dollars, plus grosse société au monde. Pour moi, c'est le signal qu'on a une telle peur de la part des investisseurs d'aller dans l'incertitude qu'on se réfugie sur une poignée de valeurs, ce qui est à mon sens extrêmement risqué. Donc on en reparlera sûrement, mais pour moi c'est plutôt le signal d'un marché qu'il ne faut pas avoir, qui est suracheté avec des valorisations beaucoup trop élevées. 38 fois les ventes pour Nvidia, c'était le même chiffre pour Cisco en 2000. Voilà.
Frédéric, donc moi vous c'est vous mon point de vue là.
Pour non, la semaine.
Non, alors on n'a pas le temps, pas de débat. Hervé, le top ou le flop?
Alors moi mon top c'est Meloni, pas en tant que première ministre italienne, mais en tant que présidente des conservateurs et réformistes européens. Elle essaie d'unifier la droite dure à Bruxelles. Si elle y arrive, c'est 150 membres du Parlement européen, plus que les socialistes, pas très loin du centre droit. Et dans ce cas-là, la droite dure en Europe pèserait plus qu'elle ne pèse aujourd'hui, et ça aurait des répercussions dans nombre de pays. Faisons attention à ce qui se passe là-bas. Elle a été toute douce jusqu'à maintenant. que nous réserve demain.
Non, mais elle a été tout douce, il faut le rappeler, parce que les gens répètent tout le temps ce parallèle entre le RN et Mélanie. Mais Mélanie, elle a été toute douce parce qu'elle a, elle a touché un paquet de pognon de la part de l'Europe qu'on ne touchera pas, nous. On n'aura pas ce boost de croissance. Elle a obtenu des montants qui sont des montants colossaux. Frédéric.
Bah, le flop, je vais aller à l'inverse. Allez. On parlait de Nvidia. C'est les 495 hautes valeurs du S&P qui ont coûté 1000 milliards de dollars au marché américain et non pas à l'inverse de 5 valeurs qui ont apporté 3000 milliards. Donc, la réalité, c'est que le marché américain est dual et qu'il y a beaucoup plus de perdants que de gagnants.
Allez, on passe tout de suite au top 3 des gérants. Frédéric, bravo. Vous êtes numéro 1, on ne l'a pas fait exprès.
Ah oui.
9,9%. Vous étiez sur le podium plusieurs fois, mais là, vous êtes passé en première place. Je vous assure qu'on n'a pas fait exprès. Sébastien Corchet est derrière vous avec 9,7%. Léa Dunant-Châtelet avec 7%. Et maintenant, on va passer à un moment que tout le monde attend avec une musique qui fait très, très peur. Frédéric, vous êtes en haut du podium. Donc, vous savez qu'avec les grands pouvoirs, il y a des grandes responsabilités. Quand on est en haut du podium, la France vous regarde.
Ouais, descendre d'ailleurs après.
Je vais vous donner votre portefeuille, vous allez me dire ce qu'ont fait vos valeurs. Prosus.
On garde.
Schneider.
On garde.
Compass.
On garde.
McDonald's.
On garde.
Nestlé.
On vend.
Pourquoi?
Ça va de controverse en controverse.
D'accord.
Bref.
Vivendi.
Allez, ça va être un sujet électoral, mais je garde.
Advanced Micro Devices.
Je garde, bien sûr.
Alphabet.
Bien sûr.
Micron. Alors, Micron, vous pouvez nous expliquer comment vous avez fait 67% depuis le début de l'année sur ce truc-là?
J'avais fait un pari. On n'en parlait pas beaucoup à l'époque.
Parce que vous nous l'avez conseillé le 23 février 2024.
Elle était tout en bas, personne n'en voulait. C'était une société qui perdait, finalement, qui était dans une... côté un peu dur parce que c'est de la mémoire flash, c'est de la mémoire que trouvez dans
c'est
vos
ça,
PC.
Je me rappelle très bien ce que vous aviez dit.
Voilà, et pour faire de l'intelligence artificielle, il faut de la mémoire. Ouais. Et à Micron, partenariat avec Nvidia, donc c'est ce que j'appelle les vendeurs de loupiottes, ceux qui accompagnent les vendeurs de pelles. Voilà, Micron est attiré par ce mouvement qui est l'intelligence artificielle.
67% de hausse, bravo. Hein. Intel.
Là, c'est un peu plus délicat, c'est le perdant d'Nvidia.
Okay, voilà,
c'est une entreprise qui a des capex énormes. Bah, on va jouer un peu toujours cet équilibre finalement.
On
Nvidia
garde.
Ne peut pas être leader avec autant d'avance par rapport à la.
Qu'est-ce qu'on achète?
Alors, je vais aller dans le sens de ce que j'ai dit tout à l'heure sur la Chine. P. Diddy. Alors, c'est pas un chanteur de rap. C'est Pinduoduo. C'est Temu pour les gens qui connaissent un peu cette application. C'est une société, en gros, qui a une croissance de l'ordre de 60 à 90% d'une année sur l'autre. Les marges, elles sont supérieures à 60%. En free cash flow, on est quasiment à 30 milliards, sur 60 milliards de chiffre d'affaires.
Donc, pas mal, ça.
C'est pour du commerce.
C'est pas mal.
Quand on pense commerce, oui, il y aura des problèmes de réglementation en Europe, mais elle est en train d'écraser littéralement toute la concurrence et même Amazon est attaqué sur son marché.
Céline, une musique qui fait peur. Alors, on a du Merck. Qu'est-ce qu'on fait?
On garde.
On a du Barrick Gold, j'imagine qu'on garde, puisque vous venez de faire de vanter les valeurs minières. Michelin.
On garde.
AIA Group.
On garde.
Shandong Hue Gao. Ça, c'est pas très bien passé, ça. On vend ça. Pourquoi?
Oui. Parce qu'il y a eu des remises en question sur les prix pour les équipements médicaux en Chine de la part des hôpitaux. Donc, effectivement, on vend.
Total Energy.
On garde.
Qu'est-ce qu'on achète?
Newmont, donc on renforce encore dans le domaine des mines d'or. Newmont Mining, donc, a fusionné avec Newcrest, qui est le leader mondial de l'or avec 10% des réserves d'or et qui est également possesseur de beaucoup de mines de cuivre, qui me semble très bien positionné.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer, juste, on a un peu de temps, pourquoi vous conseillez d'acheter des mines d'or et vous conseillez pas juste d'acheter de l'or? C'est-à-dire, aujourd'hui, il y a des ETF sur l'or qui fonctionnent très bien. Des banques centrales achètent de l'or, a priori, ça a un impact sur le cours de l'or direct. J'ai envie de se dire, pourquoi s'emmerder avec des...
Est-ce que vous avez du levier, justement?
Expliquez-moi.
C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que vous avez des coûts d'exploration minière qui vont baisser. Puisque
pourquoi
50% de vos coûts pour les minières, c'était la main-d'œuvre qui va baisser, 15% c'était l'énergie. Donc on avait eu un vent contraire qui avait soufflé. Et là, on a une détente quand vous parlez aux entreprises qui est en train de se matérialiser. Donc vous avez
des coûts
qui vont progresser à 2-4%. Parce que les tensions qu'on avait dans différentes zones du monde auxquelles ils avaient été confrontés est en train de
s'habituer
en termes de salaire.
Okay.
Et puis en plus, ils ont mis en place de l'automatisation, enfin des solutions pour pouvoir atténuer ce poids. Et de l'autre côté, vous avez une augmentation très nette des revenus du fait de la hausse des cours de l'or et du cuivre qui va se matérialiser lors du prochain trimestre. Donc vous allez avoir une augmentation très claire des cash flows qui vont être générés et des bénéfices. Donc ça, c'est extrêmement bénéfice. Et c'est des sociétés qui sont aujourd'hui très bien gérées et qui ont une image très négative parce qu'ils avaient fait, c'est vrai, n'importe quoi lors de la décennie 2000-2010. Ouais. Donc effectivement, ils s'étaient endettés massivement. Ils avaient fait des opérations d'extension à des prix qui étaient beaucoup trop élevés. Donc les investisseurs ont été vaccinés et c'est pour ça qu'on a Barrick à 8 fois et Newmont à 10 fois.
Voilà. Frédéric, vous en avez
Alors j'ai des minières.
Pourquoi je suis placé sur... Vous êtes alors, pour les mêmes raisons?
Pour plein de raisons, effectivement. Le coût de l'énergie qui a tendance à baisser. D'énormes efforts aussi. C'est un secteur massivement exclu par l'ESG. Il y a beaucoup d'intervenants aujourd'hui qui sont en train d'améliorer, notamment dans la phase de recyclage d'eau, de production autonome d'énergie. Donc moi, je suis plutôt aujourd'hui sur des Rio Tinto, des BHP ou
si
des...
Si l'extraction d'or devient ESG, voilà. Ça veut dire que même moi, je peux devenir ESG.
Non, j'ai pas dit sur les mines d'or en particulier, parce que c'est sur les problèmes politiques, mais il y a un effort clairement qui a été fait dans ce sens-là. Alors, c'est pas la panacée, ça c'est clair, mais pour le coup, il y a une vraie volonté.
Ils ont remonté l'âge de travail de 8 ans à 12 ans.
Ça, c'est vache. Non, il y a un vrai effort, notamment sur la production d'énergie et la consommation d'énergie.
Merci de nous avoir suivis. Merci à tous ces invités. Je trouvais ça passionnant. On se retrouve la semaine prochaine pour une émission dont je peux déjà vous annoncer qu'elle sera spéciale, toujours une spéciale élection. Surtout, n'oubliez pas que vous pouvez nous voir, nous revoir, nous réécouter et nous revoir encore en podcast et en replay sur la plateforme BFM et sur toutes les autres plateformes.